en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Les dynamos planétaires sont une thématique de recherche récente d'une quinzaine d'années. On sait désormais qu'une planète engendre un champ magnétique lorsqu'il est parcouru par un courant électrique et donc qu'il existe une multitude d'effets dynamo, presque autant que de planètes dans l'univers. Au cours de sa conférence donnée au Bureau des Longitudes en février 2011, Philippe Cardin, de l'Université Joseph Fourier à l'Observatoire de Grenoble, revient en détail sur l'effet dynamo de la Terre avant de passer en revue les effets des autres planètes du système solaire. Pour suivre au mieux les explications de Philippe Cardin, nous vous invitons à télécharger le support visuel de sa communication sur le site de Canal Academy. Tout de suite, Philippe Cardin.
C'est un sujet assez nouveau où il n'y a pas eu beaucoup de vulgarisation parce que, en fait, comme vous allez le voir, comme je vais essayer de vous le montrer, c'est un sujet très récent. Il y a 15 ans, il n'y avait aucun modèle de dynamo qui existait et qui fonctionnait. Donc, en fait, c'est un sujet sur lequel la communauté scientifique... 15 ans, c'est très peu pour la communauté scientifique. Donc, voilà mon plan. Je vais d'abord parler de l'effet dynamo en lui-même. Pendant longtemps, c'était une très longue quête. Pendant longtemps, on pensait à l'effet dynamo comme un effet universel. Et donc, on était à la quête d'un effet dynamo. Et vous allez voir que l'ensemble des planètes nous a démontré qu'en fait, on a affaire à plusieurs facettes de ce même effet. Et donc, on va passer en revue au moins trois facettes pour la Terre. Une dynamo qui est peut-être convective. En tout cas, c'est des hypothèses avec lesquelles on travaille aujourd'hui. Mais aussi, il y a des dynamos éteintes. Donc, on va voir que, en fait, l'effet dynamo est très sensible à l'histoire de la planète. Il y a des dynamos de marée. Il y a des modèles de dynamo pour les planètes géantes. Je vais vous montrer des résultats récents qui ont été faits dans mon équipe sur ça. Puis, enfin, je conclurai par quelques perspectives. Donc, l'effet dynamo, avant de passer à l'effet dynamo, il y a le champ magnétique. Et le champ magnétique est observé depuis très longtemps à la surface de la Terre. Vous savez que dans les archives chinoises, on a la preuve de l'existence d'objets qui mesuraient, qui étaient sensibles au champ magnétique terrestre, et en particulier des sortes de proto-boussoles qui ressemblaient, comme vous le voyez sur ce schéma, à une sorte de cuillère qui était posée sur un échiquier et qui, le manche de la cuillère seulement, était aimanté et s'orientait dans le champ magnétique de la Terre. Alors, vers l'an 1000, c'est des objets qu'on a toujours. Ces objets n'existent plus, les objets avec cet échiquier. Cet objet qui est pris en photo ici est une reconstitution d'après les écrits. Cet objet existe, il est daté de vers l'an 1000 et il fonctionne vraiment comme une boussole. Alors, en Europe, cette proto-boussole, on a une première référence ici en 1202 par Guillot de Provins, un des premiers, c'était un moine de Cluny, qui est un des premiers à avoir écrit en français d'ailleurs. Et cette partie de son poème, qui est très long, mais au milieu de ce poème, il y a « Un art font qui mentir ne peut par la vertu de la marinette, une pierre laide et brunette, où l'hyfer volontiers se joint, ainsi regarde le droit point, puis qu'une aiguille l'ait touchi, en un festus l'ait fichi, en l'eau la mette sans plus et le festus la tient dessus, puis se tourne la toute pointe contre l'estoile si sans doute. » Donc là, on a une description de cet objet qui correspond à... C'est une gravure ici du XIVe siècle, donc bien après, où on voit ici sur un bouchon en liège, dans un bol, une aiguille aimantée qui pouvait se tourner et indiquer le nord magnétique. Il reste une énigme historique qui n'a toujours pas été... à savoir s'il y a un lien entre ces deux mondes, le monde de l'Est, de l'Extrême-Orient, avec la Chine... qui était en contact avec le monde du Moyen-Âge, des civilisations occidentales, et la route de la soie les mettait en contact. On ne sait pas si cette boussole a été transportée de l'Extrême-Orient vers l'Occident au Moyen-Âge. En fait, c'est en 1600 qu'une première explication, et donc un premier modèle de champ magnétique de la Terre, va être proposé. Il est proposé par le physicien de la reine, qui pourrait être traduit aujourd'hui comme docteur, mais qui était le scientifique en fait de la reine Élisabeth Ière, et qui a proposé, qui a écrit un ouvrage sur l'origine du champ magnétique terrestre, et qui propose cette phrase est restée célèbre dans la communauté: Magnus magnet globus terrestris ipse est. Oui, le globe terrestre est vraiment un aimant. Donc, il a fait une expérience. Vous avez ici les boules d'aimant permanent qu'il a utilisées et qui ont été gardées. Et à la surface de cette boule d'aimant permanent, il a déplacé une petite aiguille aimantée et a pu voir que cette petite aiguille aimantée se comportait comme une boussole à la surface de la Terre, à la fois en inclinaison et en déclinaison. Et donc, par cette expérience, il en conclut que la Terre se comporte comme un immense aimant. Et donc, en 1600, la théorie pour expliquer le fait que les boussoles s'alignent, que les lignes des boussoles s'alignent, va être utilisée par Gilbert. Alors bon, il va dire que la Terre elle-même est un aimant, en fait. Alors en fait, ça va tomber à l'eau, parce qu'avec l'observation, et en particulier avec l'observation faite à l'Observatoire de Paris, à partir de 1678, si mes souvenirs sont bons, on mesure le champ magnétique et sa déclinaison et son inclinaison. Vous avez ici, en haut à droite, la mesure de la déclinaison à Paris, donc avec la création de l'Observatoire de Paris qui est ici, et donc les mesures deviennent continues à cette époque-là. Et avant 1678, il y a quelques mesures de déclinaison à Paris, mais ces mesures sont d'abord éparses, et ensuite, pendant longtemps, considérées comme fausses, parce qu'elles variaient. Et on ne voyait pas pourquoi le champ magnétique allait varier. Et donc, c'est que vers 1620 qu'on va admettre que le champ magnétique varie, et on va mesurer donc, du coup, le champ magnétique pour pouvoir faire des cartes magnétiques correctement. Ces différentes mesures et celles des bateaux qui voyagent ont été reprises. Et vous voyez ici tourner un petit film qui vous dit comment a varié la déclinaison depuis 1600, pendant 4 siècles. Donc vous avez ici en fait la mesure, une des mesures les plus longues faites par l'homme en continu. Pendant 400 ans, on a une mesure du champ magnétique et on a une variation de la déclinaison qui est ici assez grande. Donc je vous rappelle que la déclinaison, c'est l'angle que fait l'aiguille de la boussole et le nord géographique, donc la différence entre le nord magnétique et le nord géographique. Et donc on voit par exemple ici à Paris qu'on peut varier de plusieurs dizaines de degrés par centaine d'années. Donc la théorie de Gilbert est remise en défaut dès lors qu'on accepte que le champ magnétique varie, puisque avec un aimant permanent, il est très difficile d'expliquer cette variation du champ magnétique. Et donc, pendant longtemps, on n'avait pas d'explication pour le champ magnétique terrestre. Il a fallu d'abord inventer, de comprendre l'électricité, puis les lois de Faraday, les lois d'Ampère. Et même avec tout ça, c'était difficile. La première pierre, qui n'est pas souvent dite, c'est la dynamo électrique. C'est en 1866 que von Siemens va présenter à Berlin, à l'Académie des sciences de Berlin, une invention qu'il appelle la dynamo électrique. En fait, c'est l'image ici de la machine qui a été construite en 1879 lors du dépôt de brevet, qui s'appelle la machine de Siemens, où on transforme un mouvement mécanique en mouvement électrique. Mais dans les machines, dans les alternateurs, en général, avant que la dynamo électrique de Siemens, les aimants qui étaient utilisés pour faire l'induction magnétique étaient des aimants permanents. Avec Siemens, il va utiliser le courant électrique produit par la machine, l'alternateur, pour faire un électroaimant et produire le champ magnétique de la machine par les courants électriques produits par la machine. Donc, il va autocoupler la machine et ça va permettre aux alternateurs, c'est toujours vrai aujourd'hui, d'avoir des améliorations de l'ordre de plus de 100% en termes de rendement. Donc c'est vraiment une très très belle invention. Elle va être retenue, difficile à comprendre. Bon, après, beaucoup de systèmes vont être mis en place. Et en fait, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, que Larmor, le prix Nobel de physique, Sir Larmor, qui va être le premier à imaginer que pour le Soleil et les planètes, parce qu'on savait déjà qu'il y avait un champ magnétique sur le Soleil, aussi, que cet effet, celui imaginé par Siemens, c'est le même effet qui est à l'œuvre dans les planètes et dans les étoiles. Et donc, en fait, le mouvement va produire un champ électrique, puis des courants électriques qui produisent un champ magnétique qui s'autocouple. Alors, une expérience de pensée a été faite et proposée par Bullard à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et elle permet de bien comprendre comment fonctionne l'effet dynamo, donc j'ai décidé de vous l'expliquer. En fait, on va utiliser un disque, vous voyez ici un disque, avec un disque en métal, qu'on va mettre en rotation le long de son axe. Et on va imaginer un champ initial B0 perpendiculaire à l'axe, comme je le montre ici. À ce moment-là, on a une force, qu'on appelle en français la force de Laplace, partout ailleurs la force de Lorentz, Donc on a une force, la force de Laplace, qui, quand une particule électrique portant une charge Q est en mouvement V dans un champ magnétique, elle subit une force qui la déplace, qui est perpendiculaire à sa vitesse, et qui est QV vectoriel V. Donc ce qui fait que les électrons libres qui sont dans ce disque en métal vont tous être poussés par cette force vers l'axe. Et donc par conservation de la charge, on va avoir une charge positive qui se met au bord du disque. Donc le champ magnétique sépare les charges en mouvement. Ensuite, on utilise la loi d'Ohm. J égale sigma E plus V vectoriel B. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met un fil entre le bord du disque où était la polarité plus et l'axe du disque où était la polarité moins. Du coup, on récupère de l'intensité électrique. Et voilà, là, on a un alternateur. À partir d'un champ magnétique et du mouvement, on a produit une intensité qu'on peut utiliser. Et l'idée de Siemens, et l'idée qu'on met en valeur ici pour expliquer ça, c'est d'utiliser ce courant électrique pour faire une bobine. Alors, plutôt que d'aller à l'axe directement comme, et alimenter une ampoule, on peut entourer le fil autour du disque de telle manière à utiliser l'intensité qu'on a produite par la séparation des charges pour créer le champ magnétique qu'on avait besoin au départ pour séparer les charges. Ça, c'est la loi de Faraday, rotationnelle de B égale mu zéro J. Donc, finalement, on a fait la boucle. On avait un champ magnétique qui séparait les charges. Cette séparation de charges fait un courant électrique. Le courant électrique engendre un champ magnétique. Et donc, c'est ce qu'on appelle une dynamo, c'est ça. C'est quand on n'a que le mouvement au départ et qu'à la fin, on a transformé l'énergie cinétique en énergie magnétique. Alors, on pourrait croire qu'on a inventé le mouvement perpétuel.
Mais non, parce qu'on passe par le courant électrique.
Et comme vous le savez, le courant électrique fait de l'effet Joule. Et donc, de faire ce processus, dissipe de l'énergie. Et cette énergie, elle vient d'où ? Elle vient du mouvement. Si personne tourne le disque, finalement, eh bien, il n'y aura pas de dynamo. Donc, on a vraiment une transformation de l'énergie cinétique en énergie magnétique. Donc, voilà. Ce phénomène a été bien compris. Il a été mis en équation par Elsasser. Elsasser, c'est l'étudiant d'Einstein qui a émigré aux États-Unis avant la Seconde Guerre mondiale. Et il a publié ce papier en 1946, trois papiers. En fait, il a établi cette équation en 1942, 1943. Il a refusé de travailler sur le programme de la bombe. Il était à ce moment-là à Princeton. Et donc, il a écrit cette équation où il a mis en équation l'équation d'induction qui régit l'effet dynamo. C'est l'évolution temporelle du champ magnétique, le terme à gauche dans cette équation, est égal à deux termes.
C'est une équation, ma foi, extrêmement simple.
On a juste éliminé le courant électrique et le champ électrique des équations de Maxwell. On a un terme rotationnel de U vectoriel B. Ici, on voit l'induction, on voit ce qui séparait les charges, on retrouve la forme de la force de Laplace, et laplacien B qui est la dissipation ohmique. Donc on a un combat entre l'induction électromagnétique qui est produite par les mouvements de la matière et la dissipation qui est produite par la circulation des courants électriques. Et le terme sans dimension qui est le rapport entre ces deux s'appelle le nombre de Reynolds magnétique. Il est défini comme mu0 sigma. Alors mu0, c'est la perméabilité magnétique du vide. Sigma, la conductivité électrique du milieu, fois U fois L. U étant une vitesse typique et elle, une taille typique du milieu qu'on considère. Et ce qu'on a appris, alors, dès 1946, les mathématiciens, les astrophysiciens, les géophysiciens, tout le monde s'est mis sur cette équation pour essayer de la résoudre. Elle n'est toujours pas résolue mathématiquement, on la résout que dans des cas simplifiés. Mais on a fait beaucoup de théorèmes. Un théorème très simple que je peux vous démontrer, c'est que si Rm est inférieur à 1, le terme d'induction étant inférieur au terme de dissipation, il ne peut pas y avoir de dynamo. En fait, dans la pratique, ce n'est pas supérieur à 1, c'est qu'il faut qu'il soit supérieur, disons, à 50. Alors, ce n'est pas parce qu'on a un RM, un nombre de Reynolds magnétique, donc un milieu très conducteur d'électricité qui va vite et qui est gros. Ce n'est pas parce qu'on a ça qu'on va avoir une dynamo. Il faut en plus que U, par exemple, ne soit pas parallèle à B. Si U est parallèle à B, ce terme-là est nul, il n'y a pas d'induction. Donc, il faut des champs de vitesse qui conviennent. Alors, pendant longtemps, on a cru qu'il n'y avait pas de solution. On s'est même demandé si cet effet existait. En fait, deux expériences ont eu lieu et ont prouvé que cet effet existait. La première a eu lieu en 2000, donc quand je vous disais que c'est une science récente, voilà. C'est ce qu'on appelle la dynamo de Riga, elle a été faite en Lettonie. Elle a été faite à l'Institut de physique de Riga. C'était l'Institut de physique qui correspondait au CEA français. Donc c'est dans cet institut qu'en l'an 2000, on a constitué une turbine. Donc ici, la hauteur, c'est 3 mètres, et la hauteur de l'expérience. Donc il y a une sorte d'hélice qui est en haut de cette expérience ici, qui est entraînée par des moteurs, d'accord, et elle met le sodium en mouvement hélicoïdal, et quand on tourne assez vite, là, c'est Galitis hein, qui a mené cette expérience, quand, là vous avez sur ce graphe le temps en abscisse, le champ magnétique en ordonnée et la vitesse de la pale en ordonnée. Donc ce trait ici, c'est la vitesse de la pale, d'accord. Donc quand on atteint une certaine vitesse, vers 2000 tours par minute, un champ magnétique a été généré. Donc il a fallu que la vitesse soit suffisamment grande pour que le nombre de Reynolds magnétique soit suffisamment grand pour voir l'effet dynamo. Donc ici, vous avez sous les yeux la première preuve en laboratoire de l'existence de cet effet. Il y avait une expérience concurrente qui a fonctionné une semaine après. Pour construire une expérience comme ça, il faut à peu près 15 ans. C'est 15 ans de travail. Donc c'est l'expérience de Karlsruhe, qui est aussi l'équivalent du CEA français, mais de l'autre côté du Rhin. Ici, des Allemands ont construit une expérience aussi, avec des tuyaux où on fait circuler du sodium en hélice aussi. Et cette expérience a aussi fonctionné, on a vu un champ magnétique. Et tout dernièrement, en 2008, il y a une expérience qui a aussi fonctionné à Cadarache, donc au CEA français, dans le sud de la France, en Provence. Une expérience qui a été conduite par les gens du CEA, mais aussi par les physiciens de l'École normale supérieure de Paris et de Lyon, qui s'appelle l'expérience Van Karman sodium. Alors vous voyez les gens ici, en haut à droite, mais ils sont un peu déguisés, c'est tout un groupe. L'expérience est constituée d'un cylindre dans lequel il y a des pales reliées à des moteurs, et on fait tourner les pales très très vite. Vous avez ici des images de l'expérience. Et ces expériences, évidemment, ne sont pas très visuelles. Hein. C'est des expériences en général des cuves en inox avec du sodium et qu'on met en mouvement le plus vite possible. Et en 2008, ils ont vu un champ magnétique croître à partir de l'écoulement. Le problème de cette expérience, c'est qu'on ne sait pas si c'est une expérience dynamo, parce que, en fait, il faut que dans l'expérience, on ait un des disques qui soit en fer. Or, vous savez, le fer est ferromagnétique. Et donc, normalement, un effet dynamo, c'est un champ magnétique qui croît sans aimant permanent. Et ici, on a un bout de l'expérience qui est en aimant permanent. Et quand on l'enlève, ou quand on enlève tous les bouts en fer de cette expérience, il n'y a plus de dynamo. Si on remet un petit bout de fer quelque part, ça marche. Donc, il reste à comprendre quelque chose et c'est difficile. Voilà. Donc, on a une démonstration expérimentale de l'effet dynamo. On est bien loin des planètes, d'accord ? Et on va y revenir. Alors la Terre. Alors la Terre, son champ magnétique, on baigne dans un champ magnétique principalement dipolaire qui s'inverse au cours du temps, qui bouge aussi au cours du temps, on l'a vu par les mesures. Ce champ magnétique est créé dans le noyau de la Terre. Donc le noyau de la Terre, c'est la partie centrale. Donc là, j'ai fait une coupe à la main. Vous avez le manteau qui occupe le manteau de la Terre qui occupe la première moitié de la profondeur de la Terre, puis ensuite le noyau liquide qui fait 3200 km d'épaisseur. Qui est liquide dans sa première partie et solide, ce qu'on appelle la graine. Donc on a une éminente spécialiste ici, Annie Souriau, la graine qui est solide et qui est à l'intérieur. Donc c'est dans la partie liquide qu'il va y avoir des mouvements de fer, comme le mouvement de sodium dans l'expérience, qui sont susceptibles de créer le champ magnétique. Alors comment sont ces mouvements ? Pour étudier ces mouvements, il y a plusieurs types de mouvements possibles dans les noyaux planétaires. Et un des premiers mouvements que tout le monde a étudié, c'est le mouvement de refroidissement. De la même manière que le manteau de la Terre bouge, fait la tectonique des plaques pour assurer le refroidissement de l'intérieur de la Terre, à l'intérieur du noyau, il va y avoir des mouvements pour refroidir le noyau. Le noyau est très chaud en son centre, il veut se refroidir. La conduction ne suffit pas, a priori. La conduction de la chaleur ne suffit pas. Et donc, il va y avoir des mouvements. Alors pour étudier ces mouvements, on peut faire des calculs numériques. Ici, j'ai préféré vous montrer des expériences. Vous avez une expérience où vous représentez un noyau de la Terre. Donc vous avez une sphère en plexiglas, une sphère en cuivre au milieu qui représente la graine de la Terre. Et vous mettez un gradient de température de part et d'autre. Alors vous avez l'axe de rotation ici. Alors vous mettez ça en rotation très rapide. Parce que si vous ne mettez pas la sphère en rotation très rapide, les mouvements de convection thermique qui vont avoir lieu ne seront pas comme ça. Mais à cause de la rotation, le fluide qui va monter et emmener de la chaleur de la graine vers le manteau, qui est ici en noir, en fait, il va subir une contrainte dynamique qu'on appelle le théorème de Proudhon-Temmer, qui dit qu'un fluide est comme gelé le long de son axe de rotation. Donc en fait, les structures allongées que vous voyez sur la photo de gauche, ici, la vue de côté, la vue méridienne, ce sont des colonnes de fluide où tout le fluide, quelle que soit sa hauteur au sens de l'axe de rotation, bouge en même temps sur toute la colonne. Donc si on regarde dans le plan équatorial, on ne voit pas cette structure qui est bidimensionnelle. Là, on en voit les coupes. Et donc, on voit les tourbillons associés à ces colonnes. Donc, quand les géophysiciens ont découvert cette forme d'écoulement, ça a été une grande excitation. Parce que pour la Terre, on sait que le champ magnétique est aligné en moyenne avec l'axe de rotation, ou pas très loin. C'était très difficile de comprendre comment un écoulement à l'intérieur de la Terre pouvait produire un champ magnétique aligné avec l'axe de rotation. La dynamique du fluide retient autour de quel axe tourne la Terre. Ce n'est pas le cas dans les autres mouvements. Si, dans l'atmosphère, c'est le cas. On a des tourbillons aussi qui nous indiquent, qui voient la présence de la rotation de la Terre. On va construire des modèles numériques de convection thermique et on va essayer d'y mettre l'équation d'El-Sasser, l'équation d'induction que je vous ai présentée tout à l'heure. En fait, dans les années 90, c'était une vraie difficulté pour les moyens numériques qui étaient présents. En fait, il y a eu beaucoup de tentatives de fait dans les années 50, qui ont échoué dans les années 60, 70. À chaque fois qu'on avait un plus gros ordinateur, même c'est encore le cas aujourd'hui, on teste nos plus gros ordinateurs avec un problème dynamo parce que c'est un problème gourmand. Alors, on fait comme d'habitude, on coupe le monde en petits carrés et puis on calcule dans des petits carrés. Voilà. Alors, mais on a calculé le champ de vitesse, on a calculé le champ magnétique et on a calculé le champ de température. Donc on a 7 scalaires à calculer. Tout ça entre 2 sphères, c'est pas très facile. En fait, la première dynamo qui a été calculée, elle l'a été en 1995. Elle l'a été par Kassmeyer et Paul Roberts. Donc, ils ont publié ça en 1995. C'est la première dynamo numérique complète. Et c'est vraiment un exploit. Donc, on a 2 preuves de l'existence de ça. Outre les preuves de l'observation, si on veut, de la planète, sur les planètes et sur les étoiles, ici, on a la preuve que ces modèles dynamo peuvent expliquer la présence de champs magnétiques sur les planètes et sur les étoiles. On pourrait dire que le problème est fini. D'abord, ce n'est pas le premier calcul qui est souvent le meilleur. Enfin, c'est celui qui permet de franchir la frontière entre l'ignorance et la connaissance. Mais il faut continuer. Et pas mal de calculs ont été faits par la suite. En particulier, je vous en présente un ici, où je vous mets au défi de reconnaître le champ magnétique terrestre, une des 2 sphères, et du calcul. Donc les calculs se sont énormément améliorés au point d'essayer de reproduire presque l'ensemble des caractéristiques du champ magnétique terrestre. Alors vous avez le champ magnétique terrestre ici à droite, en 1980 à la surface du noyau de la Terre, et vous avez un résultat d'un calcul qui, pour ma foi, est très ressemblant. Alors quel est le problème ? Le problème, c'est que dans ces calculs, on a pu essayer de comprendre d'où venait l'effet dynamo. D'accord ? Et l'effet dynamo, il vient des tourbillons. C'est les tourbillons dont j'ai parlé tout à l'heure, les colonnes, qui sont les usines de base, les briques de base, à fabriquer l'effet dynamo. Et regardez ce qui se passe quand on a augmenté la puissance des ordinateurs. Ça, c'est un calcul qui vient d'être publié dans le journal Nature en 2010, qui a été fait sur le plus gros ordinateur actuellement disponible, qui utilisait beaucoup d'heures de ce calcul. Ça, c'est 1995. D'accord ? C'est les paramètres qu'on utilisait en 1995. Quand on va vers la droite ici, on augmente le nombre de relais, c'est-à-dire qu'on augmente la vigueur de la convection. Et quand on va descendre vers le bas, on augmente le taux de rotation. Ce que je n'ai pas dit, c'est que le calcul de Gary Glatzmeyer, celui en 1995, la planète Terre faisait un tour sur elle-même en 100 millions d'années. D'accord ? Donc la vitesse de la Terre était extrêmement faible. Alors avant d'arriver à la Terre qui fait un tour en un jour, on a du chemin à faire, mais on a fait un petit bout de ce chemin. Ici, la Terre fait un tour en 1 million d'années. C'est 100 fois plus rapide, mais ce n'est pas encore ça. Vous voyez que l'écoulement a beaucoup changé. Et quand on augmente la vigueur des mouvements, alors où est-ce qu'est la Terre ? On ne sait pas trop dans ce diagramme. Mais quand on prend ça là, comme écoulement, vous voyez que ça ne ressemble pas du tout à ça. Et en fait, les dynamos qu'on produit avec ce genre d'écoulement, parce que là, chaque petite tache rouge et bleue, c'est un tourbillon. Et chaque petite tache rouge et bleue produit son petit champ magnétique. Et le champ magnétique global est produit par l'ensemble de ces structures. Et donc, en particulier, ce qu'on trouve quand on fait des dynamos avec des écoulements aussi compliqués que ça, c'est que la dynamo n'est plus dipolaire. Je vous montre un résultat obtenu dans mon équipe. a encore été plus loin. Alors, ce calcul a été fait sur le Earth Simulator au Japon. C'est un calcul 3D. Donc, on envoie une coupe ici. Ici, on a triché. C'est un calcul qui n'est pas calcul 3D. Donc, on peut aller encore... Là, la Terre fait un tour en 100 000 ans. C'est mieux. Et vous voyez, les petits tourbillons, c'est chaque petite structure comme ça. Donc, voilà comment ça se passe. Chaque tourbillon a une durée de vie assez limitée, n'existe pas très longtemps, va produire son champ magnétique, disparaître. Et puis, vous voyez, il est pris dans des mouvements globaux, qu'on appelle les mouvements zonaux. On ne comprend pas très bien. On ne sait pas les mettre à l'échelle. On ne sait pas combien il y en a. Bon, voilà. Et c'est avec ces écoulements de cette complexité qu'on veut produire des dynamos. Et quand on produit des dynamos avec des écoulements de cette complexité, eh ben on n'arrive pas à reproduire des champs magnétiques simples comme ceux qu'il y a à la surface des planètes. OK ? Donc là, ça, c'est un enjeu pour la recherche d'aujourd'hui. Alors, voilà comment on réfléchit la dynamo de la Terre aujourd'hui. Enfin, c'est ma vision à moi. Il y a des dynamos, d'autres dynamos qui ont fonctionné dans le passé. Et celle qui est connue depuis longtemps... c'est celle justement de la Lune. Dans le programme Apollo, des échantillons de roches ont été ramenés de la Lune, et ces échantillons de roches étaient aimantés. D'abord, on a cru à un gag, parce qu'on s'est dit, ils sont peut-être aimantés en rentrant dans le champ magnétique de la Terre. En fait, la mission Apollo suivante, on a emmené un échantillon aimanté de la Terre et un échantillon non aimanté de la Terre, qui ont fait l'aller-retour, dans la mission Apollo, pour vérifier que les roches ne s'aimantaient pas en rentrant dans le champ magnétique terrestre. Et donc l'échantillon de roches non aimanté qui était parti de la mission Apollo est revenu non aimanté. Donc on a la certitude que l'aimantation des roches lunaires qui ont été ramenées par les missions Apollo sont vraiment une aimantation liée à un champ magnétique présent à un moment dans la vie de ces roches. Alors aujourd'hui, ça c'est la mission Luna Prospector, Lunar Prospector de la NASA. Vous avez ici une carte du champ magnétique à la surface de la Lune, donc far side, near side, donc ça c'est la vue de notre côté, quoi. Et ça c'est l'autre côté de la Lune, celle qu'on ne voit pas. Et donc il y a quelque chose de très étonnant, le champ magnétique a l'air d'être plutôt fort de l'autre côté. Donc la première explication, qui a été apportée par Ron Korn dans les années 70, c'était que peut-être que la Lune a un noyau, peut-être que ce noyau a convecté comme celui de la Terre, a aimanté les roches à la surface de la Lune, et puis maintenant, cette dynamo s'est éteinte. Il y a une explication qui vient d'apparaître depuis 20 ans et qui a été remise en valeur par ces observations, c'est que vous voyez ici, on a dessiné, ici on a une échelle logarithmique, là on a pris une échelle linéaire, donc ça explique pourquoi ces deux cartes sont les mêmes, échelle logarithmique, échelle linéaire. Donc en fait, le champ magnétique est très fort sur certains endroits, sur certains pics. Et les ronds qu'on a dessinés ici sont les antipodes des cratères de l'autre côté. Il y a quelques grands cratères sur la Lune. Et regardez, alors ça, cette publication a fait un puzzle à beaucoup de gens. Parce que du coup, on se dit, mais pourquoi le champ magnétique se trouve les pics, pourquoi a-t-on des pics de champ magnétique sur la Lune exactement aux antipodes des cratères? Donc il y a un modèle qui a été avancé en 91, qui est peu crédible. Mais cette observation le rend crédible. Ce serait une combinaison entre un modèle de plasma, quand il y a un impact, il y a un plasma qui se mettrait et qui circulerait aux antipodes, pendant que les ondes sismiques se réuniraient aux antipodes, augmenteraient la pression, de telle manière à ce qu'elles puissent enregistrer le champ magnétique. C'est quand même très difficile à croire. Donc là, il y a vraiment une complication. De manière générale, et ça se voit bien sur la Lune, les cratères, quand il y a un impact météoritique sur une croûte aimantée, ça désaimante la croûte, en général. Elle reste aimantée, mais de manière chaotique, et elle n'a plus de signal visible par les sondes. Alors, il y a une autre explication qui a été donnée, c'est celle de publier dans Nature en 2003, parce que la difficulté du noyau de la Lune, et donc on ne voit pas comment on peut faire une dynamo avec le noyau de la Lune. Une manière de le faire, c'est ce qui a été publié ici, c'est de dire qu'à la base du manteau de la Lune, en fait, il y a une couche stratifiée. Et cette couche stratifiée est stable, et à un moment donné, dans l'histoire de la Lune, vers 4,2 milliards d'années, se déstabilise, le manteau se met à convecter, et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, le noyau de la Lune peut se refroidir. Et à ce moment-là, il se met à bouger, il fait une dynamo pendant 200 millions d'années, et puis après, c'est fini. Donc voilà une explication. Alors, il y a un autre champ magnétique mort dans notre système solaire, c'est celui de Mars. Donc, ça a été découvert ces dernières années aussi, par Mars Global Surveyor, la mission américaine. Et c'était un grand étonnement de voir que vous avez ici la carte de l'intensité du champ magnétique à la surface de Mars. Donc on voit déjà, d'abord, il y a eu beaucoup de choses quand ça a été découvert, hein, vous avez sûrement entendu parler. D'abord, on voit des bandes. Et ces bandes, on a cru d'abord que c'était comme les bandes magnétiques au fond des océans terrestres. Ce qui aurait prouvé qu'il y avait une tectonique sur Mars, qui n'était pas une tectonique des plaques. En fait, c'est vrai qu'il y a des bandes, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de bandes, mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout comme ça qu'on les interprète. Donc, ce qu'on retient de ces cartes, et qui a été vraiment démontré, c'est qu'il y a toute la partie nouvelle de la planète Mars, qui est l'hémisphère nord, qui est sans champ magnétique. Et en fait, ça va être utilisé par les modélisateurs géophysiciens pour expliquer une dynamo de martienne. Alors, le scénario est le suivant. Vers 4 milliards d'années, il y aurait eu un fort impact sur Mars dans la partie ici qui n'est pas magnétisée. Ça, c'est une partie nouvelle de Mars. C'est l'impact qui aurait fondu le manteau de Mars à cet endroit et aurait mis le manteau en convection. Et la mise en convection du manteau aurait permis, comme sur la Lune, la même idée que la Lune, de mettre le noyau lui-même en convection. Ce qui se passe, c'est qu'on refroidit la planète Mars par cet épisode de convection mantellique qui est associé à un impact et qui met donc le manteau martien en mouvement que d'un côté. Elle va refroidir le noyau que d'un côté. Et ici, vous avez un calcul de dynamo, comme celui de la Terre. Quand on refroidit le noyau uniformément à droite et quand on refroidit le noyau que d'un côté. Quand on refroidit le noyau que d'un côté, la convection va se mettre dans le noyau en place que d'un côté. Et c'est très rigolo, ça fabrique un champ magnétique que d'un côté. Donc Sabine Stanley prétend que le champ magnétique martien a été produit pendant une fenêtre de convection du noyau, mais c'est une convection hémisphérique qui s'est faite que d'un côté. Et ça serait dû à l'impact de la météorite. Voilà pour les dynamos convectives. Il y a d'autres types de dynamos qu'on ne peut pas expliquer avec la convection, baptisés les dynamos de marée. Alors, il y a une mission actuelle qui vole, qui s'appelle Messenger, qui est une mission de la NASA. Puis, il y a une autre mission européenne aussi qui s'appelle BepiColombo. Et voici le champ magnétique mesuré par le vol de Messenger à côté de Mercure. Alors, vous voyez, quand on a passé dans la magnétosphère de Mercure, alors, ça ne se voit pas très bien, mais dessous, il y a la planète Mercure de dessinée avec les lignes de champ en bleu clair. Et on voit bien, la planète Mercure a un champ magnétique interne. Ce champ magnétique interne est très petit. Et cette faible intensité avait déjà été mesurée par une mission précédente dans les années 70. En fait, ce champ magnétique est trop faible pour être une dynamo. La planète Mercure a un noyau énorme qui peut représenter 85% du rayon de la planète. Et donc, le champ magnétique qu'on devrait voir à la surface de Mercure devrait être très proche du champ magnétique qu'on verrait, nous, si on était à la surface du noyau de la Terre. Et si on est proche du noyau d'une planète, le champ magnétique est très fort parce qu'on est proche de l'endroit où se fait la dynamo. Et aujourd'hui, dans les dynamos convectives, on comprend l'amplitude du champ magnétique dans un équilibre avec la rotation. Et quand on fait cet équilibre pour la planète Mercure, on trouve que le champ magnétique de la planète Mercure est 1000 à 10 000 fois trop petit pour être expliqué par un modèle convectif de dynamo. Ça, c'était le premier problème des modélisateurs. Le deuxième problème, c'est celui de l'histoire thermique de Mercure. Mercure est une planète extrêmement petite. Elle se refroidit extrêmement vite. On ne comprend pas comment aujourd'hui le noyau de Mercure peut être encore liquide. Donc ça, on ne s'attendait pas à avoir un champ magnétique vivant sur Mercure parce qu'on pensait que le noyau de Mercure était principalement gelé. Alors, Margot, un autre article dans Science en 2007, a prouvé que le noyau de Mercure était liquide. Il l'a fait grâce aux librations de Mercure. En observant depuis la Terre les mouvements de Mercure, en particulier son mouvement de ralentissement en rotation, il a pu montrer que la planète ne se comporte pas comme un solide. Donc, il reste une couche liquide à l'intérieur de Mercure. Les observations astronomiques nous le prouvent. Ça remettait ça. Comment expliquer qu'aujourd'hui sur Mercure, il y ait encore un noyau liquide? C'est là où on a fait appel à la dissipation des marées et des librations, car les mouvements de libration, qui sont les mouvements d'accélération et de refroidissement de la planète, en fait, produisent des mouvements dans le liquide à la frontière entre le manteau et le noyau, et ces mouvements dissipent de l'énergie qui peut permettre aujourd'hui à la planète Mercure d'avoir un noyau liquide. Donc ça serait l'énergie associée aux marées et aux librations qui seraient dissipées dans le noyau et qui permettraient au noyau de rester liquide pour pouvoir fabriquer un effet dynamo. Une autre alternative a été proposée par une équipe allemande je vous la présente parce qu'elle est intéressante. Ils ont oublié le problème du noyau solide de mercure. Ils ont supposé qu'il y avait quelque chose qui laissait le noyau liquide à mercure tout le temps. Ici, c'est le noyau de mercure. Et ils supposent qu'il est liquide sur les deux tiers, comme pour la Terre. Ils ont réussi à fabriquer des dynamos qui ne fonctionnent que tout près de la graine. Et quand on fabrique des dynamos qui fonctionnent tout près de la graine, quand on est à l'extérieur de Mercure, le champ magnétique est très faible. Donc ils étaient contents parce qu'on a trouvé des modèles qui permettent de trouver un champ magnétique très faible à la surface de Mercure. Une autre planète inconnue où on a besoin des forces de marée, ce n'est pas une planète officiellement, puisque c'est un satellite jovien. Mais bon, pour la cause, je vais l'appeler une planète. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à d'autres objets qu'on appelle planètes. Donc c'est le satellite Ganymède, qui est le quatrième satellite de Jupiter, et qui a lui aussi un champ magnétique. Donc il est composé d'un manteau rocheux, d'une couche fluide, d'eau, de glace, et puis d'un petit noyau métallique. Cet objet est extrêmement petit aussi. Son histoire, on s'attendait à un objet mort, puisque l'histoire d'une planète, c'est sa taille en gros. Hein. Plus un objet est petit, plus il se refroidit vite, plus son histoire thermique se finit extrêmement vite. Et là aussi, il y avait un champ. Alors vous voyez, ce champ a été mesuré par la sonde Galileo, qui a volé entre 1989 et 2004. Et une toute petite magnétosphère, parce que le champ magnétique de Jupiter est énorme, donc une toute petite magnétosphère, mais d'origine interne. Là aussi, le seul mécanisme qui peut expliquer ça, c'est un mécanisme de libration, de précession, de nutation de cette planète qui est très proche de Jupiter. Ces mécanismes ne sont pas très bien démontrés, pas très bien expliqués. Donc, les quatre planètes géantes, on sait qu'il y a des champs magnétiques sur ces planètes. D'ailleurs, la planète Jupiter, c'est la première planète où on a découvert qu'il y avait un champ magnétique. C'est une mission dans les années 60. Et vous voyez ici, je vous ai mis cette belle photo où on voit les aurores boréales sur la planète Jupiter et les aurores boréales sur la planète Saturne qui prouvent que ces planètes ont un champ magnétique. Alors, la planète Neptune, il y a eu un seul vol par Voyager 2, me semble-t-il. La planète Neptune a un champ particulier. Alors, d'abord, la planète Neptune est particulière parce que son axe de rotation est quasiment dans le plan de l'écliptique, ce qui est bizarre pour une planète. En général, elles sont plutôt pas dans le plan de l'écliptique, leur axe de rotation. Et l'axe magnétique, lui, est très éloigné de l'axe de rotation. Il y a 60 degrés d'écart. Et le dipôle magnétique de la planète Neptune n'est même pas au centre de la planète. Donc, ça a l'air d'être un champ magnétique très bizarre. Je les ai portés ici. Donc, vous avez le champ magnétique de la Terre à la surface, ici. Le champ magnétique de Jupiter, qui, ma foi, ressemble pas mal à celui de la Terre. Celui de Saturne, alors lui, il est très, très axisymétrique, aligné avec l'axe de rotation, moins d'1% d'écart entre le champ magnétique et l'axe de rotation. Et puis, voilà, vous avez Uranus et Neptune, qui sont deux planètes où on a un seul flyby, un seul vol. Donc, c'est très difficile de savoir comment vraiment le champ magnétique, on ne peut pas l'observer de la Terre. Lors du passage, le champ magnétique était complexe, enfin, pas dipolaire. Alors comment on peut produire l'effet dynamo ? Est-ce que ces planètes géantes sont principalement constituées de gaz ? Il y a un tout petit noyau peut-être au centre, enfin une partie de roche au centre, voire un tout petit truc de métal peut-être encore au centre, mais c'est principalement du gaz. Comment on a imaginé l'effet dynamo ? On l'a imaginé à partir d'expériences en fait, qui ont prouvé que l'hydrogène pouvait être métallique sous très haute pression. Donc vous avez ici une sorte de canon, c'est au Livermore, Lawrence Livermore National Laboratory. Vous avez une photo d'un canon où on tire un projectile sur une pastille d'hydrogène et on mesure la conductivité électrique de cette pastille. Et sous l'impact, la pression augmente énormément avant d'exploser. Hein, et on peut mesurer la résistivité de l'hydrogène. Et on a vu que l'hydrogène, à partir d'une certaine pression, devenait métallique, c'est-à-dire qu'il conduisait extrêmement bien l'électricité. Donc, on a prédit une phase métallique de l'hydrogène. Et dans la planète Jupiter, cette phase métallique commence à 20 000 km au-dessous de la surface de Jupiter. Donc, c'est comme ça qu'on voit. Il nous faut un conducteur d'électricité. Pour la planète Jupiter, le conducteur d'électricité, c'est l'hydrogène, mais c'est l'hydrogène métallique qui commence à 20 000 km sous la planète Jupiter. Et c'est donc les mouvements dans cette partie métallique de l'hydrogène qui doivent produire l'effet dynamo. Dans la planète Neptune, qui est beaucoup plus petite, la pression n'est pas atteinte. Donc, on n'a pas de phase métallique de l'hydrogène. Alors, on ne sait pas comment faire. Alors, on pense qu'en fait, on a un électrolyte composé de méthane et d'ammoniac, et que ce serait cet électrolyte qui serait suffisamment conducteur pour produire l'effet dynamo. très incertain. Alors voilà un mécanisme qui a été mis au... des calculs qui ont été faits dans notre équipe, un mécanisme qui est possible. Vous avez ici des calculs numériques qui ont été faits par une équipe canadienne des 20 000 premiers kilomètres de la planète Jupiter pour expliquer les bandes de Jupiter. Vous savez que à la surface de Jupiter, il y a des bandes zonales, est-ouest, nord. Et on a été capable de faire un calcul de convection thermique sur ces 20 000 premiers kilomètres d'épaisseur pour expliquer ces bandes. Et ce qu'on a retenu en voyant ça, c'est que ces bandes s'appuient sur la partie métallique. Et vous voyez, ces bandes produites à la surface de Jupiter s'enfoncent dans Jupiter et produisent à la surface de la partie métallique des mouvements. Et c'est ces mouvements, on s'est dit, est-ce que ces mouvements pourraient produire l'effet dynamo ? C'était la question qu'on s'est posée. Donc on a pris ces mouvements, ils sont représentés ici en fonction de la latitude, l'amplitude des mouvements. Ça, c'est ce qui est observé, c'est les pointillés. Et puis comme c'est très dur de faire l'observation mathématiquement, on a superposé, vous voyez, on a fait la courbe rouge en très plein pour faire des calculs. Et voilà la partie métallique de Jupiter, où on impose un mouvement à la surface du noyau métallique de Jupiter, de l'hydrogène. Et ces mouvements sont des mouvements azimutaux. Quand ces mouvements sont suffisamment gros, ils peuvent développer eux-mêmes des tourbillons. C'est ce qu'on appelle les instabilités de cisaillement. Alors vous voyez ici le mouvement zonal, qui est la projection de ce qu'on voit à la surface de Jupiter, à l'intérieur de Jupiter. Ça fait comme des cylindres emboîtés qui tournent dans un sens et dans l'autre. On les voit ici. C'est ce trait dit dans quel sens va le cylindre. Celui-ci va par là, celui-ci va par là, celui-ci va par là, celui-ci va par là. Et quand le cisaillement entre deux cylindres, deux mouvements zonaux, est trop grand, ça fabrique des tourbillons. C'est ces tourbillons qui vont faire l'effet dynamo dans les calculs qu'on a faits. Alors évidemment, on peut augmenter la vitesse, ces tourbillons deviennent compliqués. Mais même quand ils restent simples comme ça, quand on n'a pas de tourbillon entre les bandes de cisaillement, on n'a pas d'effet dynamo. Et quand on a mis en place ces tourbillons par le cisaillement, on a pu créer une dynamo. Et alors, ce qui est rigolo, pour ça qu'on essaie d'en faire une belle histoire, ce qui est rigolo, c'est qu'à la surface d'Uranus, il y a aussi des mouvements. Mais il y a une seule bande. Il y a une bande équatoriale et une bande polaire. Alors qu'à la surface de Jupiter, il y a plein de bandes. C'est ce que vous voyez en noir et blanc. D'accord ? À la surface de Jupiter, il y a plein de bandes qui se projettent sur la partie métallique. À la surface de Neptune, il n'y a qu'une seule bande. Quand on fait des calculs de dynamo avec plein de bandes, on retrouve un champ axisymétrique dipolaire, sans qu'on comprenne pourquoi. Et quand on fait calcul avec deux bandes, on ne trouve pas de dipôle. On trouve un champ magnétique qui ressemble au champ magnétique d'Uranus et de Neptune. Et donc, on relie de manière magique, sans comprendre pourquoi, des observations à la surface de ces planètes qui sont liées aux mouvements zonaux et le champ magnétique qui est produit en profondeur. Voilà, quelques perspectives. Alors d'abord, j'espère que je vous montrer que c'est en fait autant de planètes, autant de scénarios. Et donc l'effet dynamo, eh ben, il prend une forme différente sur chacune des planètes. On voit que l'histoire de la planète est fondamentale. Ça va jouer un rôle considérable, l'histoire thermique, mais aussi l'histoire collisionnelle. Sur les planètes géantes, on peut montrer que des dynamos de cisaillement peuvent exister, qui ne sont pas des dynamos thermiques non plus. Et puis, il y a juste un aspect que... Il reste cette question sur laquelle j'ai essayé d'attirer votre attention, sur le fait que l'unité de base pour fabriquer le champ magnétique, c'est les tourbillons, c'est à très petite échelle. Or, on a un champ magnétique de grande échelle, pour les planètes en tout cas, et qu'on ne sait pas passer de l'un à l'autre, qu'on n'en comprend pas la physique. C'est différent pour les étoiles. Par exemple, pour le Soleil, il y a un champ magnétique de petite échelle qui est extrêmement grand, et le champ magnétique de grande échelle est petit. Alors, deux questions ouvertes. Je vous ai montré la variation séculaire du champ magnétique, la variation de déclinaison. Aujourd'hui, on ne sait pas si ça, c'est relié à l'effet dynamo ou pas. Ça, c'est une question. À l'IPG de Paris, actuellement, il y a des gens qui essayent de relier ça à l'effet dynamo, c'est-à-dire d'expliquer les mouvements de la variation de la boussole sur 400 ans par l'effet dynamo du noyau. Et la dernière inconnue, c'est qu'il y a une planète dont je ne vous ai pas parlé. Avant les années 60, la Terre était la seule planète avec un champ magnétique. C'était nous, les gens singuliers. Aujourd'hui, toutes les planètes ont ou ont eu un champ magnétique, sauf une. C'est Vénus. Et pourtant, c'est la planète sœur de la Terre. C'est ce qu'on a tendance à dire. C'est celle qui nous ressemble, pour pas mal d'aspects, beaucoup. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de missions sur Vénus. Mais les missions qu'il y a eu montrent qu'il n'y a pas de champ magnétique. Alors, il y a peut-être pu y avoir un champ magnétique. Mais pourquoi Vénus ne l'aurait pas gardé ? dans sa croûte. Pourquoi Vénus n'aurait pas de champ magnétique ? Est-ce que son noyau est gelé ? Est-ce qu'il est trop petit ? Est-ce qu'il est fabriqué de telle manière à ne pas pouvoir faire de la convection thermique ? Enfin, toutes ces questions restent ouvertes. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut expliquer, ce n'est pas les champs magnétiques. Vous avez vu qu'on a pléthore de modèles pour expliquer les champs magnétiques. Maintenant, il faut expliquer non-observation. C'est beaucoup plus difficile d'une certaine manière. Enfin, là, il faudrait d'abord s'assurer bien que les observations sont justes. Voilà, je vous remercie.
C'était Philippe Cardin de l'université Joseph Fourier à l'Observatoire de Grenoble. Vous l'avez entendu sur sa spécialité, l'effet dynamo des planètes, une conférence donnée au Bureau des Longitudes en février 2011. Restez à l'écoute de nos retransmissions et téléchargez dès maintenant les autres conférences du Bureau des Longitudes sur le site de Canal Académie dans les émissions En colloque, rubrique Science. Les conférences du Bureau des Longitudes sont ouvertes au public. Pour connaître les prochaines dates, connectez-vous sur le site www.bureau-des-longitudes.fr.